VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. RDC, hommage des Congolais aujourd'hui à Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise décédé le mois dernier à l'âge de 66 ans. Des milliers de fans se sont rassemblés à Kinshasa devant le palais du peuple, le parlement, où est exposé le corps du chanteur disparu qui a été décoré à titre posthume par le président congolais Joseph Kabila. « Au nom du peuple congolais et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés », a déclaré le chef de l'État, « nous vous élevons à titre posthume à la dignité de grand officier de l'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba pour les mérites et les loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise ». Le président Kabila a ensuite déposé la médaille de l'ordre sur le cercueil du musicien, mort brusquement sur scène, micro à la main, le dimanche 24 avril, alors qu'il participait à un festival de musique urbaine d'Anoumambo à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les obsèques de Papa Wemba sont prévues mercredi dans la périphérie de Kinshasa. Au Congo-Brazzaville voisin, nouveau gouvernement un mois après la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Conduit par le Premier ministre Clément Mwamba, ce gouvernement de 38 ministres est marqué par l'entrée d'une quinzaine de personnalités et le départ de 4 ministres d'État. De Brazzaville, les précisions de notre correspondant Nguela Ngoussou.
Les classiques de tous les temps comme Isidore Mvouba, le général Florent Tiba ou l'oncle du président Sassou Nguesso, Aimé Emmanuel Yoka et Rodolphe Adada, tous ministres d'État, n'ont pas été reconduits. Seul le rescapé Henri Ndjombo, lui aussi ministre depuis 1997 après la victoire de la guerre civile, mais qui laisse son éternel poste de l'économie forestière à Rosalie Matondo pour aller à l'agriculture et à l'élevage. Mais le gouvernement de Clément Mwamba compte beaucoup de jeunes figures comme Destiny Doukara, moins de 40 ans, à la jeunesse et à l'instruction civique, Léon Juste Ibombo au télécom, et dont l'association le MDZNR vient de porter plainte contre les médias français RFI, France 24 et TV5 Monde pour incitation à la violence au Congo. Elvis Jirel Salissa Oukombi, se réclamant du centre, s'occupera des relations avec le Parlement. En dehors du défi du développement socio-économique qu'attendent tous les Congolais, le gouvernement Mwamba devra vite relever le défi de la paix et de sécurité, car les bombardements issus du contentieux électoral se poursuivent dans le Poula. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Tchad, 5 des 6 candidats contestant la victoire du président Idriss Déby Itno à la présidentielle du 10 avril se sont réunis dimanche à Moundou, dans le sud du pays, pour exprimer leur soutien au maire de cette ville et candidat à la présidentielle, Laoukane Kourayo Médard. Le directeur de Radio FM Nada, Beinde Bessang de Silver, explique ce que ses opposants entendent faire.
Sur le plan politique, ces candidats décident de maintenir leur position puisque pas plus tard que 2 jours, ils ont donné leurs propres résultats. Et donc ces résultats placent en première position Saleh Kebzabo avec plus de 33%, là où Kourayo Médard, maire de Moundou, avec un pourcentage de 25%. Ils invitent leurs militants à rester vigilants pour attendre le Conseil constitutionnel qui va donner le résultat définitif. Ils entendent donc après cela se faire entendre par tous les moyens légaux et qu'ils ne se laisseront pas donc pas faire.
Beinde Bessang de Silver, directeur de Radio FM Nada, joint à Moundou dans le sud du Tchad. Au Comores, la Cour constitutionnelle comorienne a ordonné samedi la réorganisation de la présidentielle dans 13 bureaux de vote pour divers problèmes constatés lors du scrutin du 10 avril. Selon les résultats provisoires, le vainqueur de la présidentielle, le colonel et ancien président Azali Assoumani, devance de quelques 2000 voix seulement le candidat du pouvoir Mohamed Ali Soili. L'explication d'Ali Madi, directeur de Caribou Magazine au Comores.
En réalité, c'est que les localités concernées peuvent être considérées comme des fiefs du parti Joua de l'ancien président Sambi, qui soutient le candidat Azali, qui a battu le pouvoir selon les résultats provisoires. Mais on ne sait jamais, tout peut arriver. Ce qui est ici, c'est que toujours Azali Assoumani reste le favori de cette élection, même si c'est une partielle qui concerne quelque peu de localités. Et puis, il a déjà une avance de 2194 voix, selon les résultats de la CENI de la dernière fois. Donc, du coup, il reste le favori, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout peut arriver. Surtout que le troisième candidat qui était dans cette course s'est déjà prononcé favorablement pour soutenir Mohamed Ali Soali dans cette partielle.
Ali Mahdi, directeur de Caribou Mag aux Comores. Et puis au Soudan, la Cour constitutionnelle soudanaise a ordonné la levée d'une interdiction de publication imposée il y a 5 mois à un des plus importants quotidiens indépendants du pays, Al-Tayar. L'avocat du quotidien, Nabil Adib, a confirmé cette décision. Al-Tayar avait été suspendu en décembre après une série d'éditoriaux critiquant le gouvernement pour la baisse des subventions sur les carburants et l'électricité.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, la dépolitisation des postes nominatifs et le respect des droits et des libertés ont été au centre de la célébration du 1er mai dans le pays. Les différentes centrales syndicales ont mené des activités diverses. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a respecté la tradition avec son défilé du 1er mai, alors que la Confédération syndicale des travailleurs du Mali a animé une conférence débat, tout comme la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Il fallait attendre le 1er mai pour assister au défilé de l'UNTM, la plus grande centrale du pays. Les enseignants qui viennent d'être empêchés de mettre un comité syndical dans les écoles privées étaient du défilé. Oumar Diara, enseignant.
C'est l'ensemble de la liberté syndicale en République du Mali qui a été attaqué et que la constitution malienne a été attaquée dans son article 20 qui dit que la liberté syndicale est garantie. C'est que les gens comprennent que nous avons droit à l'INPS, que nous avons droit à la retraite, que nous avons droit à l'assurance, que nous avons droit à vivre de notre travail qui est l'enseignement.
Le Mali est et indivisible, respect des droits et des libertés. C'est autour de ces thèmes que les militants de la CSTM se sont réunis. Amadou Amiongindo, secrétaire général de la CSTM.
Nous ne sommes pas du tout contents de la manière dont le gouvernement et le Conseil national du patronat ont géré les derniers accords signés en 2015. Nous avons tenu à le dénoncer. Il y a assez d'insuffisances à ce niveau-là et nous les avons replacés dans un nouveau cahier de doléances que nous entendons en ce moment défendre.
Constitué de 80% des travailleurs du secteur privé, la CTM a inauguré son siège en marge des festivités du 1er mai. Certains de ses militants sont opposés à la dévolution de la maison des artisans de Bamako au conseil du district de la capitale, Broulaye Kanté, bijoutier.
Si quelqu'un qui respecte ses lois, ses valeurs, la maison des artisans ne doit même pas être retirée de la commune 2. La maison des artisans doit être considérée comme un bien propre à la commune 2. Pourquoi ça sera géré par un autre pouvoir quelconque? On n'est pas du tout d'accord.
Le secrétaire général de l'Union des travailleurs du Mali, INTM, s'insurge contre la politisation des postes nominatifs au Mali. Yacouba Katilé.
L'administration et de la diplomatie, de la justice et même de l'armée afin que la compétence, les mérites soient de rigueur dans les nominations. Autant, tout citoyen a le droit de participer aux affaires de la nation par le truchement du parti politique de son choix. Autant, tout travailleur et travailleur a le droit de respecter les dispositions statutaires et réglementaires lui interdisant de mener de front les activités syndicales et les activités politiques. Nul n'a le droit de mener des activités politiques couvertes par les masque du responsable syndical. Nous ne manquerons pas d'user de nos textes pour sévir.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Burkina Faso, des jours difficiles en perspective pour les habitants de Ouagadougou, la capitale, où les autorités ont annoncé le début cette semaine du rationnement de l'eau potable. Une décision dictée par les difficultés d'approvisionnement en eau de la ville. Timothée de Longmaya recueillit la réaction de Daniel Dayenne, secrétaire général chargé de l'éducation et de la formation de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso.
La situation aujourd'hui, c'est que le stock d'eau, s'il faut le dire ainsi, est suffisant pour pouvoir alimenter toute la ville de Ouagadougou à cette période de chaleur. Voilà un peu la situation. Nous, les consommateurs, nous commençons déjà à demander aux consommateurs eux-mêmes de rationner leur consommation, de ne plus procéder au lavage des véhicules à jet d'eau, de ne plus arroser les fleurs à jet d'eau, etc., etc. Je crois que ce que le gouvernement a demandé, c'est exactement comme s'ils étaient en train de faire une sorte de délestage. Voilà ce que nous faut dire à chaud. La situation est grave, il faut qu'une solution soit prise. L'eau, c'est la vie. L'eau est obligatoire d'accès pour tout le monde, mais ce rationnement, nous aurons préféré que ce rationnement soit fait en tenant compte des personnes indigentes, des personnes qui déjà n'avaient pas accès à l'eau et qui commençaient à l'avoir par d'autres canaux comme les bonnes fontaines. Pour nous, il faut les maintenir. Donc, notre exigence serait que les bonnes fontaines, les quartiers populaires ne soient pas touchés par ce rationnement.
Voilà, c'était Daniel Dayen, secrétaire général chargé de l'éducation et de la formation de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, joint à Ouagadougou. Et pour terminer, le conflit en Syrie, la situation en Syrie est à bien des égards hors de contrôle, a déclaré aujourd'hui devant la presse à Genève le secrétaire d'État américain John Kerry. S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec l'émissaire spécial de l'ONU sur la Syrie, Staffan de Mistura, M. Kerry a ajouté qu'il allait téléphoner plus tard dans la journée à son homologue russe Sergei Lavrov pour faire pression pour un retour au cessez-le-feu.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.